Bon, je te raconte. Donc, il était 5 heures du matin, plus ou moins. Enfin, c'était le petit matin. Je donnais le biberon à mon fils. Et puis, bah, la porte a éclaté. Et avec un bélier, là, c'était des plein de monde avec des fusils. Et ils sont rués sur nous. Il y en a un qui m'a arraché mon fils des bras, et tellement violemment qu'il est tombé contre le mur. Et puis j'ai reçu un coup de fusil sur la tête, je suis tombé dans les vapes, je sais pas trop combien de temps. Et puis j'ai crié tuez pas mon fils, le tuez pas, le tuez pas. Et ils étaient tellement violents que j'aurais jamais imaginé que c'était la police. C'était la police. Et là j'ai hurlé, mais pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Ils m'ont dit que j'étais un terroriste, que j'avais caché Salah Abdeslam après l'attaque de Paris. Et puis, ils m'ont mis une cagoule sur la tête, j'arrivais plus à respirer. Ma femme était à l'hôpital, elle venait d'accoucher. Alors, la police a pris mes enfants, elle les a donnés à un assistant social. Et puis, finalement, ils m'ont relâché le soir même.
La justice d'exception, qu'est-ce que j'entends par là en Belgique? Parce que je pense qu'il y a aussi des différences avec d'autres pays européens. L'exception, elle se crée au niveau de la matière qui est traitée. Donc je pense que l'exemple par excellence de la justice d'exception en Belgique, c'est tout ce qui concerne la législation antiterroriste. Il y a plusieurs législations qui ont été adoptées. Alors la première a été adoptée en 2003. C'est concrètement uniquement une transposition d'une directive européenne. Directive européenne qui, après les attentats du 11 septembre, a été adoptée en se disant il faut que tous les États européens aient une législation antiterrorisme. Et donc la Belgique a juste transposé cette directive européenne dans le droit belge. On peut diviser en gros cette directive et cette loi en deux grands types d'infractions. Il y a d'une part le fait d'appartenir ou d'être le chef, le dirigeant d'un groupe terroriste. L'autre volet concerne les actes terroristes en eux-mêmes. Donc il y a soit la participation, la direction d'un groupe, soit le fait de poser vraiment des actes matériels qu'on considère comme étant des actes terroristes. Un élément essentiel pour comprendre la question de la direction et de la participation, on peut tout à fait être condamné pour participation à un groupe terroriste sans avoir posé un acte terroriste. C'est-à-dire que on pourrait considérer que quelqu'un qui soutient d'une manière ou d'une autre des personnes qu'on considère faisant partie d'un groupe terroriste, par exemple en leur offrant l'hospitalité, en préparant des réunions, voilà, ça peut vraiment être très large. On peut considérer que cette personne a participé à une organisation terroriste et donc on peut la poursuivre et la condamner pour participation à une organisation terroriste. Donc on voit déjà dans la définition même à la base comment on arrive à se détacher du fait matériel. Je m'appelle Diletta, je suis avocate depuis 5 ans maintenant.
Nicolas Cohen, je suis avocat au barreau de Bruxelles et également le coprésident de l'Observatoire international des prisons. Et au cabinet, on a vraiment une spécialité de droit pénal et droit des étrangers. Et cette spécialité-là, on l'a tournée notamment dans la défense des procès terroristes. Et ça a été clairement plutôt du terrorisme islamiste, on va dire, ou en tout cas des groupes identifiés comme des groupes d'islamistes radicaux. Et de temps en temps, des groupes identifiés, notamment plus d'actions politiques. genre politique extrême gauche, quoi. Les infractions terroristes sont en fait simplement des infractions de droit commun qu'on connaissait déjà, auxquelles on a rajouté le mobile, en considérant que le mobile était un élément de l'infraction. Dès lors qu'il y a un mobile terroriste, l'infraction passe à un degré de gravité supérieur. C'est vraiment le mobile qui va permettre en fait, de poursuivre pas tellement des actes matériellement répréhensibles, mais simplement le fait d'avoir fait quelque chose d'autorisé, mais en ayant en tête, ou en étant supposé avoir eu en tête, l'intention, même pas encore de commettre un attentat terroriste, mais simplement de rejoindre, ne serait-ce qu'en communauté d'esprit, les activités d'un groupe identifié comme terroriste. Et donc on remonte très 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 loin sur... L'unique point de rattachement, c'est ce que les gens sont supposés avoir eu en tête. Et ça devient assez compliqué de savoir ce qui est interdit. Un bon exemple en était la poursuite, c'était l'année passée, en 2016 ou fin 2015, je ne sais plus, de personnes pour avoir hébergé une nuit et conduit à l'aéroport d'autres personnes qui partaient en Syrie. Et ce qu'on leur reprochait, c'était de ne pas les avoir empêchés de partir. Donc d'avoir d'une part offert une aide matérielle mais c'était une aide matérielle assez relative, parce qu'il s'agissait d'aider de partir à Zaventem des gens qui habitaient déjà en Belgique. Ce n'est pas des gens qui avaient besoin spécifiquement qu'on les conduise à travers un territoire qu'ils ne connaissaient pas. C'était juste des gens qui avaient quitté leur domicile, qui dormaient ailleurs une nuit et qui ensuite se rendaient à l'aéroport. Et donc c'était pas une aide dont ils avaient absolument besoin pour réussir leur départ, mais le fait d'avoir participé à ce simple acte et de ne pas avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour les en empêcher, ça c'était poursuivi comme la participation aux activités d'un groupe terroriste.
Au niveau de ce que permettent toutes les législations antiterroristes, enfin tout le corps de règles antiterroristes, au niveau déjà de l'enquête, c'est clair qu'il y a un recours massif à ce qu'on appelle les MPR, donc les méthodes particulières de recherche et d'enquête. Ce sont des méthodes d'enquête qui sont en fait hyper, hyper intrusives. Donc ça peut aller de la surveillance d'une maison, donc surveillance à distance ou par le placement de micros. Ça peut aussi consister à l'infiltration, donc envoyer des personnes qui vont infiltrer des groupes affinitaires ou autres.
On va gratter très très largement autour de toutes les personnes connues, on va tout fouiller, les téléphones, les ordinateurs, pour essayer de retrouver, de matérialiser ce mobile d'une manière ou d'une autre.
On se retrouve avec des dossiers où il y a des cartons et des cartons d'écoute téléphonique et où on retire telle phrase ou tel truc parce que on est toujours ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de l'interprétation de l'intention. Et donc, on utilise ça comme si c'était « Ah, vous voyez bien, il a dit cette chose-là à tel moment-là, c'est bien que il doit y avoir quelque chose en dessous, quoi. » Donc, c'est toujours dans ce domaine de l'interprétation.
Et alors, parfois, on a vraiment des grands écarts entre, d'une part, la gravité objective de l'infraction de participation aux activités d'un groupe terroriste qui n'est puni, j'ai envie de dire, presque que de 5 ans d'emprisonnement maximum, alors que pour la poursuivre, on va mettre en place des moyens énormes qu'on met d'ordinaire en place pour poursuivre des groupements d'organisations criminelles très avancées.
Pour donner un exemple concret que je pense beaucoup ont vécu sur leur peau, après les attentats de Paris, après les attentats de Bruxelles, il y a eu des vagues de perquisitions qui ont eu lieu. À ce moment-là, ça a été, je pense, tout le quartier de Molenbeek. Il y a eu à peu près presque tout le monde qui s'est fait contrôler à ce moment-là.
Le simple fait d'être arrêté souvent à l'occasion d'une descente à domicile et d'une perquisition sont extrêmement violentes et traumatisantes pour toute la famille et tout l'entourage. Une perquisition antiterroriste, quand on en a vécu une, on s'en souvient. Et c'est très destructeur et ça génère dans toutes les personnes qui sont témoins ou qui en ont entendu parler énormément de suspicions. immédiatement, parce qu'on se dit toujours, mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc s'il y a eu une telle intervention, c'est qu'il y a bien eu quelque chose, et donc on se méfie. Et on voit bien que même dans les familles, ça détruit les liens, le simple fait d'avoir subi ce type d'intervention, soit ça détruit les liens, soit parfois ça fait l'inverse, ça renforce les liens, mais ça les renforce à un point que les gens se mettent à être extrêmement suspicieux à l'égard de toute forme d'autorité publique, tellement l'intervention a été violente, et à se renfermer en fait sur eux-mêmes et à ne plus faire confiance aux autorités. Et aux autorités, et parfois même à leurs voisins. Et ça peut, c'est très vraiment destructeur du lien humain. Et il y a très peu de, enfin en tout cas à ma connaissance, peu de travail qui est fait pour réparer quand c'est possible ou amoindrir ce traumatisme. Donc les policiers diront probablement que pour amoindrir, il faut au moins ne pas se tromper quand on fait des perquisitions. Mais quand on voit le nombre de perquisitions qui ont eu lieu, rien que ça, par rapport au nombre de personnes poursuivies, on voit bien qu'il y a énormément, beaucoup plus de traumatisés que de personnes poursuivies.
Ça reste aussi dans les fichiers policiers. Si vous vous faites contrôler et que, ah bah tiens, à tel moment, vous avez eu tel contrôle pour tel fait, ça reste. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qui restera un casier judiciaire. Mais donc, le fichage est là pour la personne qui l'a subi. Mais ça donnera pas nécessairement lieu à un procès ensuite. Concrètement, t'as pas vraiment de recours contre une situation de fichage. Alors, y a plusieurs possibilités. Soit il peut y avoir un fichage qui se fait dans le cadre d'une enquête qui ensuite ne donnera pas de résultat, mais donc il y a des documents qui te concernent dans l'enquête. Tu devras prouver que ça a été abusif, que ça t'a causé un dommage, etc. Mais donc voilà, là c'est parti pour la gloire, c'est plus vers la voie judiciaire. Mais voilà, concrètement, on pourra toujours justifier ça pour des raisons objectives de l'enquête. Il fallait qu'on vienne chez toi, il fallait qu'on pose ces actes parce qu'on était à la recherche de tel et tel élément. Donc ce sera très dur de montrer par la voie judiciaire que tu as été victime de quelque chose qui n'était pas qui n'était pas justifié par les besoins de l'enquête. Par ailleurs, pour des personnes qui sont fichées, soit à la police, soit à la sûreté de l'État, donc des personnes qui se rendent compte, en fait, quand elles veulent postuler pour tel travail ou pour tel autre travail, je prends l'exemple d'un type qui voulait postuler, donc rentrer dans l'armée, là on lui dit, ben non, parce qu'en fait tu es fiché comme étant une potentielle menace, etc. Donc déjà, il a fallu comprendre où il était fiché. Donc est-ce qu'il était fiché à la police, à la BNG? Donc BNG, c'est une banque de données où se trouve, je pense, à peu près 1 million de Belges qui ont été à un moment ou un autre arrêtés. Donc ça ne concerne pas uniquement les faits de terrorisme, donc c'est un espèce de fichier central, toujours un peu mystérieux. Est-ce que tu as été fiché à la Sûreté de l'État? Donc déjà, il faut comprendre de qui émane ce fichage. Et puis, à qui est-ce que tu vas t'adresser? Est-ce que tu fais une demande directement à la Sûreté de l'État en espérant qu'ils te répondent et qu'ils t'enlèvent de la fameuse liste? Tu te retrouves en fait face à une administration qui va, si elle le veut, te renvoyer à l'infini et tu n'auras peut-être jamais compris pourquoi tu as été fiché et sur quelle base en fait tu as été fiché. Et tu ne sauras peut-être même jamais comment te déficher de ce fichage. Encore aussi des personnes qui se font retirer le badge d'accès à des zones de travail plus sensibles parce que en fait on a mené des enquêtes dans la famille ou je ne sais pas, qui donc dans l'attente d'une procédure judiciaire qui n'aura probablement pas lieu parce qu'elles ne sont pas directement visées par une enquête, elles ne sont pas directement visées parce que ce sont elles des personnes entre guillemets terroristes, se retrouvent en fait empêchées de pouvoir continuer à travailler parce qu'au niveau du travail on dit ben non, tant que tu n'as pas cette enquête ou ce processus qui est abouti, nous on te reprend pas. Donc voilà, ça donne lieu à tout ce genre de situations là où matériellement tu es empêché sur une pure base discrétionnaire de pouvoir faire des choses sans que par ailleurs voilà, tu sois poursuivi comme étant... Tu sois poursuivi, point. si au final, il n'y a pas de procédure judiciaire qui est intentée contre toi, ben voilà, tant mieux pour toi d'une certaine mesure, parce qu'évidemment, tu n'as pas envie de te prendre un procès antiterroriste dans les dents. Mais voilà, tu as juste à retourner à ta vie sans trop broncher, alors que ben, tu as quand même subi quelque chose qui était assez exceptionnel.
Les juges ne sont pas enclins à prononcer des peines constructives, alors même que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont poursuivis pour des actes qui en eux-mêmes ne sont pas des infractions, mais simplement pour le mobile qu'on leur prête. Donc on va retrouver aussi ce poids-là de cette manière-là. On va le retrouver aussi en termes de déroulement de la détention préventive, parce qu'elles vont être fort longues, elles vont être plus longues que pour les infractions de droit commun. Ça dure vraiment plus longtemps parce qu'il y a toujours un petit doute supplémentaire. On veut vraiment s'assurer encore plus que pour les autres qu'ils ne vont pas recommencer.
Il y a un juge qui se penche sur la légalité de cette détention, on va dire, ou sur la nécessité plutôt de cette détention. Mais au quotidien, ce sont tous des petits bricolages administratifs qui décident de la situation concrète d'une personne qui est en détention préventive.
Et donc on a recours à des outils pour éviter la détention préventive qui sont des trucs totalement farfelus comme le recours au nouveau centre pour la prévention des radicalismes et extrémismes violents, le CAPREV, qui est censé pouvoir accompagner les personnes qui sont concernées par la radicalisation. En soi, c'est très bien qu'on les ait mis en place parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des espaces d'écoute, mais personne ne connaît la qualité de leur travail et rien n'a été évalué. Or, aujourd'hui, pour avoir une libération en détention préventive de quelqu'un poursuivi pour terrorisme, il faut souvent proposer quelque chose de cette nature-là. Or, personne n'est capable de dire quelle est la qualité de ce travail-là. Donc, c'est absurde.
Il n'y a quasiment aucune prise sur ces petites décisions administratives qui jalonnent en fait sa détention en attente d'un procès. Et on en arrive à un système où les personnes qui sont poursuivies pour terrorisme se retrouvent à être soumises à des régimes spéciaux d'isolement, des régimes spéciaux de traitement, parce qu'on considère qu'elles sont potentiellement plus dangereuses que d'autres pour le discours qu'elles pourraient véhiculer.
Un braqueur et qui traîne dans des milieux de braqueurs, et ben si on le libère, on va lui dire déjà de payer une lourde caution et on va lui dire de ne plus sortir le soir, d'avoir un couvre-feu, de pointer au commissariat, etc. Parce qu'on lui reproche des actes. Donc on se dit, on va essayer de le mettre dans un dispositif qui va l'empêcher de commettre ses actes. Mais quelqu'un à qui on reproche ses idées, on ne peut pas l'empêcher d'avoir des idées. Et donc, on va se retrouver avec cette problématique. Comment en faire pour s'assurer qu'il ne va pas avoir les mêmes idées ?
Sur le volet pénal, il y a tellement que je suis perdu pour te répondre. Je vois passer comme ça des tas de mesures et j'arrive même plus à te dire lesquelles. C'est pas la plus récente, mais pour moi, l'incitation indirecte au terrorisme, c'est le moment où j'ai arrêté de réfléchir plus loin. Parce que je me suis dit, si on peut qualifier ça d'infraction, alors tout peut le devenir. L'incitation indirecte, c'est pas ce que t'as dit, c'est ce qu'on comprend que t'aurais voulu dire. Là, si c'est indirect, c'est que tu l'as pas dit. C'est que t'as voulu le dire, mais on sent que tu t'es retenu parce qu'il y avait justement la législation pénale. Je suis Olivier Sten, avocat depuis une dizaine d'années au cabinet PLN, Progress Lawyers Network.
Là, on fait un pas en plus dans le détachement qu'il peut y avoir entre un acte matériel et une punition. Donc, c'est comme ça que le droit pénal de base fonctionne. Il y a un acte qui est commis, c'est pas bien, et donc il y a une punition qui suit. Ici, on est vraiment dans l'idée de réprimer à la base ce qui pourrait donner lieu éventuellement à quelque chose, à un acte.
N'importe quelle assertion pourrait être qualifiée d'incitation indirecte au terrorisme. Je peux te reprendre les critères des travaux parlementaires si tu veux rigoler un coup, mais je ne sais pas si on doit aller dans ce détail-là. Mais donc, qu'est-ce que c'était que l'incitation indirecte au terrorisme ? Il y avait 4 critères. Le premier, c'est la nature du message. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ben, il n'y avait justement rien à propos de la nature des messages, à part le fait qu'ils disaient qu'une incitation à la haine avait plus de chances d'être de l'incitation indirecte au terrorisme. Alors reste, qui est celui qui s'exprime ? Donc, du coup, vraiment, on admet vraiment qu'on est en train de juger celui qui s'exprime. Et alors, je ne résiste pas, les travaux parlementaires disent on regardera son charisme, quoi. Donc, tu as un stade où le juge va devoir apprécier ton charisme. On est vraiment dans un truc de fou. Et alors, celui auquel tu t'adresses. Donc, celui auquel tu t'adresses, ben, du coup, tu peux parler du Kurdistan aux Palestiniens et aux Palestiniens du Kurdistan. Mais si tu parles aux gens de ce qui les intéresse, alors là, il y a un problème. Et puis, quand tu t'exprimes, comme je le fais maintenant, dans un micro, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Donc, dans ces cas-là, quoi ? Tu es censé faire d'abord un travail d'investigation avant de parler. Ben, tu n'as plus de liberté d'expression dans ce cas-là. Et alors, le dernier critère, c'était celui du contexte. Il disait, dans une situation de crise, de nouveau, c'est plus grave. Mais bon, moi, je me souviens, je crois que je suis né en situation de crise et que la crise, elle se perpétue depuis. Je vais te dire ce que je pense qu'est la justice. Je pense que c'est l'État effectivement d'un rapport de force à un moment donné. Je pense qu'elle joue un rôle pour le pouvoir qui est essentiellement de s'approprier la colère des gens, de la leur rendre inaccessible puisqu'elle devient extrêmement technique et que finalement ils ne maîtrisent plus la parole à propos de leur propre colère, à propos des injustices qu'ils ont eux-mêmes vécues. Elle consiste à délayer cette colère dans le temps. Progressivement, les personnes... se retrouvent dans une procédure qui va durer 10, 5 ou 10 ans, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus s'exprimer non plus, ne serait-ce qu'à cause des règles de la procédure. Là, voilà, on est à tel stade, on est à huis clos, donc là, vous ne pouvez même pas parler de ce qui vous occupe et de la manière dont vous avez vécu des injustices. Donc tout ça, c'est quand même un rôle qu'a la justice d'emblée. Mais en étant quand même l'état d'un certain rapport de force, elle est aussi quelque chose qui peut jouer en faveur des gens, puisque un certain nombre de droits sont des acquis et... de ce point de vue-là, ça peut quand même, on va dire, ça crée une paix sociale avec les avantages et les désavantages que ça implique. Mais donc, ça veut dire aussi qu'a priori, tu dois avoir une certaine sécurité, qu'on ne peut pas t'emmener en prison pour n'importe quel motif, et ainsi de suite, qu'il y a des règles du jeu communes à tout le monde. Effectivement, c'est de moins en moins le cas. Quand on crée l'incitation indirecte au terrorisme et que finalement, le juge est forcé d'avoir sa propre analyse politique sur la situation et qu'on n'est plus du tout dans un cadre où le juge... doit respecter certains cadres ou dispose d'un certain nombre de critères qu'il doit appliquer ou non, quand on est dans un cadre où c'est complètement flou, où personne ne sait quand il est en train d'inciter au terrorisme ou pas, quand finalement n'importe quel discours politique peut tomber sous le coup de cette, prévention, à ce moment-là, finalement, on est vraiment dans l'exception, justement, puisque tu voulais en parler, l'exception, c'est pleinement ça, quoi.